Madame Julien, pour évoquer la vie à Saint-Antonin sous la République protestante, quelle musique avez-vous choisie ?
Bien, nous entendrons d'abord deux chorales de l'Église réformée, Sur la croix et Brillante étoile du matin. Mais comme il faut bien que vous ayez connaissance d'un horrible crime de sodomie commis par un de nos malheureux compatriotes, j'ai fait appel à ce moment-là aux sorcières et aux démons qui s'ébattent sur la montagne par une nuit sans lune dans une de ces contrées mystérieuses qui font peur. Vous reconnaîtrez le début de l'œuvre bien connue de Moussorgski, Une nuit sur le mont Chauve.
Saint-Antonin est donc une république protestante depuis 1562, entourée de villes catholiques. Aussi farouchement catholique que Saint-Antonin est farouchement protestant. On peut bien s'imaginer, Monsieur Julien, que cette rivalité dans cette période d'intolérance rend la vie des Saint-Antoninois très difficile. Et pourtant, tout semble bien se passer.
En effet, quand on considère les dures conditions de vie faites aux Saint-Antoninois pendant les guerres de religion, plus précisément pendant la période qui a suivi le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572, jusqu'à la promulgation de l'édit de Nantes en 1598, on ne peut manquer de s'interroger sur l'indéfectible fidélité de notre ville à la cause protestante. Comment ses habitants ont-ils pu, sans se révolter, vivre dans l'alarme permanente, accepter la lourde charge du service de garde au rempart, nuit et jour, souffrir de la faim, de la peste, endurer les deuils inhérents au combat, la division dans les familles? Comment ont-ils pu supporter tout cela pendant tant d'années? Il faut bien qu'une conscience collective ait été créée, entretenue et exaltée même sur la base d'un idéal, d'une foi, la foi précisément en la pure parole de Dieu, c'est-à-dire en la nouvelle religion chrétienne réformée. Ce sont les consuls de cette époque qui ont réalisé cette prouesse de maintenir, malgré toutes les causes de division, la cohésion des habitants de cette ville, cernée de tous côtés et mise au ban de la nation par le pouvoir légal.
Vous nous parliez, Monsieur Julien, de la prouesse des consuls de maintenir la cohésion des habitants de Saint-Antonin. Vous pouvez nous expliquer comment ils ont réalisé cette prouesse ?
Eh bien, ces consuls ont su d'abord associer le peuple à l'administration de la cité. Chacun des procès-verbaux, des innombrables réunions du conseil de ville, détaille en préambule tous les participants, Ce sont d'abord les 6 consuls, évidemment, les 24 conseillers de ville, tous nommés par leur nom, et le préambule ajoute « beaucoup d'autres en grand nombre appelés à donner leur avis sur les décisions importantes à prendre ». À ces réunions, en effet, tous les chefs de maison étaient conviés. Voilà pourquoi ces consuls de cette époque ont pu, avec audace certes, mais fort légitimement, se considérer comme les chefs d'une authentique république. Voilà pourquoi on les désignait toujours, parlant d'eux, comme nos seigneurs consuls, ou bien nos magistrats. Voilà pourquoi ils siégeaient aux assemblées en robe rouge et noire et chaperon. Ces grandes réunions populaires ne pouvaient se tenir commodément dans la grande salle de la maison commune trop exiguë. Aussi, dès 1568, les grandes assemblées auront lieu au temple de l'Église réformée, l'ancienne église Saint-Michel, où l'on a installé cette année-là un banc pour les consuls, un banc pour les conseillers, et construit une tribune tout le long de la nef pour le peuple. Alors, rituellement, à l'issue du prêche, chaque dimanche, mais aussi parfois les jours de semaine et en particulier le mercredi, s'ouvrait le grand conseil de ville en présence du ministre de la parole de Dieu, c'est-à-dire le pasteur. Ce lieu sacré pour tous les assistants, ce moment choisi où, après l'office, l'esprit et le cœur sont encore sous l'enchantement de la pure parole de Dieu, de la musique incantatoire des psaumes, provoque l'éclosion d'un climat de communion, de fraternité. Chacun se sent conforté dans sa résolution de tout faire pour le triomphe de la nouvelle religion. À l'image de la Genève de Calvin, cette république saint-antoninoise et d'essence et d'esprit éminemment religieux. C'est une république protestante. Et comme à Genève, le seul mot d'ordre, la seule morale sera pureté et rigueur. Rigueur qui va s'exercer contre les papistes romains, molestés dans leurs biens et leurs personnes, dans leurs croyances, à l'occasion des sursauts farouches qui, en 1568, pousseront le peuple de notre ville à brûler les vénérables reliques de Saint-Antonin sur la place du Bioc. Et, après la Saint-Barthélemy, par rage de vengeance, en octobre 1572, à tuer et meurtrir quelques chanoines et carmes, imprudemment revenus en cette ville à la faveur des dispositions de l'édit de pacification de Saint-Germain-en-Laye du 8 août 1571. Rigueur qui s'exerce aussi contre les vicieux et scandaleux, disent les textes, qui n'observent pas bonne vie et mœurs. Voici quelques textes qui me paraissent particulièrement éloquents. Celui-ci du 11 mai 1578. Le conseil siège et décide. Est arrêté que sera faite proclame, portant prohibition à toute personne de quelle qualité et condition que soit, de ne chanter en lieu que ce soit aucune chanson mondaine, scandaleuse et contrevenant à l'honneur et gloire de Dieu, sur peine, écoutez bien, sur peine d'être mis en prison et condamné à l'amende des consuls. Ces deux autres textes du mois de novembre 1572 menacent les femmes aux mœurs légères qui, sans doute, avouons-le, dans cette ville de garnison, devaient être nombreuses. Écoutez ce texte. Les femmes soupçonnées de paillarder, que sont mariées, seront exhortées de ne continuer plus, à peine qu'en sera fait punition exemplaire. Et quant à la chambrière, c'est-à-dire la servante, de Bertrand Petitmestre, ayant fait un enfant cette année, demeurant avec lui, combien qu'elle ait son mari, serait enquis contre elle et procédé à la punition par les consuls. Et quant aux autres, n'étant point mariés s'ils s'en trouvent, seront tirés hors la ville et bannis d'Icelle. Autre texte qui suit quelques jours après. On y revient. Sur la punition des femmes lubriques, alors là on n'hésite pas sur les mots, suspectées de paillarder, arrête que Monseigneur gouverneur, le gouverneur militaire, parlera suivant son offre avec Bertrand Petitmestre et fera tirer dehors la ville la femme qui le servait. Voilà le texte. Vous savez, c'est cette femme qui a eu un enfant étant chez lui. Et voilà, la femme seule est coupable. Et le nommé Petitmestre, bourgeois et plus tard consul, évidemment, n'est pour rien dans l'affaire.
Oui, monsieur Julien, pauvre femme. Comment peut-on expliquer ce mépris des femmes de la part d'hommes qui cherchent plus de justice et plus de fraternité?
Oui, évidemment, il ne faut pas oublier quand on parle de la République protestante que nous sommes au XVIe siècle et que la femme, qui au début du Moyen-Âge avait tenu un rôle important dans la société et avait même été magnifiée parfois, aussi bien par les écrivains que par les puissants du jour, eh bien la femme connaît maintenant avec la Renaissance, la Réforme, une condition assez lamentable, comme le prouvent ces textes. La femme est rejetée. Et par exemple, quand on fait le grand conseil de ville, jamais aucune femme n'y est conviée. Il y a un mépris souverain pour la femme. Et là, n'incriminons pas seulement la religion protestante, les catholiques faisaient pareil. C'est une forme de la civilisation du XVIe siècle. Et il faudra aux femmes bien des siècles pour trouver, comme aujourd'hui, ce qu'elles croient être une égalité avec les hommes.
Monsieur Julien, je suppose que cette sévérité des consuls n'est pas exclusivement dirigée vers les femmes.
Non, quand même, il faut le reconnaître. Plaignons par exemple ce pauvre Bernard Delluc. Que des pulsions sexuelles irrépressibles, comme chacun peut en avoir, ont entraîné à des relations illicites avec une ânesse. Et c'est daté du 29 juin 1578, ce texte qui suit. Le procès contre Bernard Delluc, accusé de sodomie, sera poursuivi à toute diligence et le plus bref que faire se pourra. Les consuls instruisent donc le procès du pauvre diable, disant, pour raison que tout vice demeurant impuni est un grand intérêt et préjudice au public. Delluc fait appel de la sentence fatale des consuls à la souveraine cour de parlement à Toulouse. Hélas pour lui, la réponse arrive et l'on note, vu l'arrêt donné par la cour souveraine de parlement de Toulouse la semaine passée contre Bernard Delluc, appelant des consuls de la dite ville, renvoyé sur l'exécution dit celui à Nicelle, par lequel est ordonné que dit celui Delluc sera délivré esmain de l'exécuteur de la haute justice qui, avec la harte au cou, le traînera sur un cariot par la ville et après sera estranglé à une potence et brûlé après avec l'ânesse de laquelle avait abusé. Voilà, l'exécution de la sentence eut lieu le jour même, le 22 août 1578, au pré commun de notre ville.
On voit donc, monsieur Julien, que tout écart de conduite est sévèrement réprimé. Vous pensez que c'est par ce moyen que les consuls ont réussi à maintenir l'ordre à Saint-Antonin?
Non, il ne faudrait pas conclure, sautement, à la lecture ou à l'audition de ces documents pittoresques, un régime de terreur permanente à Saint-Antonin. La contrainte et la coercition n'ont jamais entraîné ni conviction, ni adhésion sincère. Tout homme de bon sens le sait. Il a fallu tout autre chose pour entraîner la conversion de la grande majorité des habitants, sinon la totalité, comme l'ont plusieurs fois déclaré les consuls. Il a fallu tout autre chose, et d'abord l'exemple qu'ont pu donner les responsables, ces consuls qui assument une charge dont le poids est inimaginable pour nous, qui requiert d'eux une totale abnégation, l'abandon de tout intérêt personnel, l'acceptation des risques inhérents à l'impopularité des mesures prises. C'est l'exemple de ces pasteurs aussi, dont le plus remarquable reste le ministre Pourcel, mort à la tâche, qui vivent modestement du salaire alloué par le budget de la ville. Quelle différence avec les chanoines! Et assurent quotidiennement prières et prêches. Enfin, il y a l'exemple que donnent les coreligionnaires des autres villes protestantes avec lesquelles s'est formée la Fédération des Églises Réformées de France par opposition à l'Église catholique romaine. Voyez déjà l'opposition des deux mots France-Romain, dont Henri de Navarre est le prince prestigieux protecteur des Églises Réformées. Cependant, il faut reconnaître que la totalité des habitants ne se sont jamais convertis entièrement à la religion réformée. Il est resté en effet toujours à Saint-Antonin, même aux périodes les plus noires, des catholiques réfractaires, que l'on n'acceptait pas pour la garde des remparts et qui subissaient contributions supplémentaires, hébergement des soldats. Il est resté des papistes impénitents, à cause desquels il fallait décréter la fermeture obligatoire des boutiques, tavernes et cabarets pendant les offices du dimanche et du mercredi. Il a fallu contraindre les bouchers à servir de la viande le vendredi. On a obligé, il faut le reconnaître et le dire, des papistes impénitents à venir assister aux prêches. Mais ce sont les femmes, surtout, qui ont été les plus rebelles, si on peut dire. Les femmes ont gardé la nostalgie du faste des cérémonies catholiques, beaucoup plus séduisant que l'austérité du rite calviniste. Et certaines persistent à célébrer le culte. D'autres, en cachette, font baptiser leur nouveau-né selon le rite catholique. Et cela explique cette décision du 16 octobre 1579 prise par le Conseil. Écoutez bien. Sur le fait des sages-femmes est arrêté que seront réduites à 6 et seront tenues prêter serment de bien s'acquitter de leurs charges et servir tant le pauvre que le riche et aussi de venir déclarer au diacre tous les enfants ou filles que seront nés et reçus par elle, pour éviter, écoutez bien, le blasphème commis par ceux qui baptisent au grasal, c'est-à-dire le baptême catholique à la cuve, profanant la sainte institution et sacrement du baptême ordonné par Dieu. Et voilà, ainsi allait la vie dans cette république protestante de Saint-Antonin, courageuse et austère.